Nous sommes lundi 7 septembre 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de Studio Kalungu de Fissa Adam Sirfo à la présentation. Les titres. La digue de protection du quartier Lamordé dans le 5e arrondissement de Niamey a cédé hier matin. Les autorités de la ville de Niamey ont décidé de s'occuper des sinistrés. Ouverture ce matin à Niamey du 57e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Les participants demandent une fois de plus à la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali de regagner leur caserne. Dans le magazine Justice de ce lundi, nous verrons ce que prévoit la loi sur la cybercriminalité pour les adultes qui sollicitent des faveurs sexuelles d'un mineur à travers les réseaux sociaux. La 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte ce matin au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Dans son discours d'ouverture, Issoufou Mahamadou, le président en exercice de la CEDEAO, a demandé une fois de plus à la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali suite à un coup d'État le 18 août dernier de regagner les casernes. On l'écoute.
Nous avons pris des sanctions et demandé à la junte militaire de regagner les casernes afin que l'armée puisse se concentrer sur sa mission traditionnelle, en l'occurrence la guerre contre le terrorisme et le crime organisé. Nous avons aussi demandé la mise en place d'une transition d'une durée de 12 mois au maximum dirigée par des civils. Le Mali a plus que jamais besoin de stabilité pour que les aspirations fortes du peuple malien à la sécurité, au développement soient pleinement satisfaites. Il est du devoir de notre communauté d'assister les Maliens en vue d'un rétablissement rapide de toutes les institutions démocratiques. La junte militaire doit nous aider à aider le Mali. Nous fondons l'espoir qu'elle répondra favorablement aux mesures prises par notre communauté. D'autres partenaires stratégiques du peuple malien fondent le même espoir. Ne les décevons pas.
Des propos du président en exercice de la CEDEAO, Issoufou Mahamadou, recueillis par notre reporter Michel Deji. Et nous reviendrons sur les conclusions de ce 57e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO dans notre édition de demain. La junte militaire au pouvoir au Mali depuis le 18 août 2020 n'arrive toujours pas à mettre en place un gouvernement de transition, mais aussi déterminer la durée de la dite transition, selon Ali Tunkara, analyste et enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et Sciences Humaines de Bamako. Il y a encore une mésentente entre les militaires du Comité national pour le salut du peuple CNSP et la coordination des mouvements de l'Azawad CMEA, notamment sur l'application des accords d'Algérie. Il est joué au téléphone par Tarnan Foudey Ahmed.
Les Maliens attendent, voire la semaine prochaine, ne serait-ce que la confirmation d'un président de la transition et la désignation d'un premier ministre également qui va composer toute l'équipe gouvernementale. Ces attentes, entre autres aujourd'hui, qui caractérisent le quotidien des Maliens. Des assises d'une part entre les militaires et les différentes composantes de la société, d'autre part, des échanges entre ces mêmes militaires et les chefs d'État de la CEDEAO quant à la durée et la nature de la transition.
L'application des accords d'Alger semble déjà être un point de mésentente entre la CMA et la junte au pouvoir.
La coordination du mouvement de l'Azawad laisse entendre que la junte militaire avait promis de se rendre à Kidal avant la tenue des réunions qui sont en cours. Le report de ce voyage à Kidal, l'argumentaire qui a été soutenu par la junte militaire, peine à convaincre la partie. Il y a un rapport tendu entre la CMA et la junte militaire au pouvoir.
Je vous le disais dans les titres, effondrement de la digue dimanche matin à Niamey. Cette digue protégeait jusqu'alors les habitants du quartier Lamordé des eaux du fleuve Niger. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, qui s'est rendu sur place, a annoncé une aide en vivres et la relocalisation des familles sinistrées par les inondations sur des sites sécurisés. Moukhtar Mamoudou est au micro de notre reporter Farid Bourema.
L'abondance de cette pluie est exceptionnelle. Dans l'histoire de Niamey, nous n'avons pas connu cette situation. Ce qui s'est passé aujourd'hui, la digue de la mort, je vous ai dit, on a fait un travail avec la population, on a renforcé. Mais voilà, mais malheureusement, la digue a cédé. Nous ne pouvons pas évacuer avant cette situation parce que, vous savez, il y a l'incertitude. Est-ce que la digue va céder? Est-ce que la digue ne va pas céder? Le plus important aujourd'hui, c'est de nous occuper de ces sinistrés, de les mettre à l'abri, de leur trouver un toit, de leur trouver de quoi manger et immédiatement après, les repositionner sur d'autres terres.
Face donc à ces inondations qui ne cessent de faire des dégâts depuis le début de la saison des pluies, les riverains du fleuve dans le 5e arrondissement de Niamey donnent des pistes de solutions pour prévenir le débordement des eaux. Ils étaient interrogés ce matin par Rukayetou Abdrahman.
Chaque année, la montée des eaux cause des dégâts. Il faut peut-être construire des grandes canalisations d'évacuation, sinon c'est un éternel recommencement, car c'est la voie naturelle de l'eau.
On doit désensabler le fleuve, penser à lotir certains endroits et construire des caniveaux pour limiter les dégâts. Si c'est trop compliqué de désensabler le fleuve, on peut demander aux entrepreneurs d'utiliser le sable qu'il y a dans le fleuve dans leurs chantiers de construction.
À mon avis, il faut désensabler le fleuve. Ainsi, les eaux n'arriveront pas à ce stade, puisque lorsque le fleuve était profond, l'eau ne débordait pas. Mais maintenant que le lit est ensablé, mais bien sûr que l'eau va déborder de son cours.
Les habitants des villages insulaires de la commune urbaine de Tillabéri, eux, scrutent de près le niveau des eaux du fleuve Niger. Selon Dr Seydou Hangadoumbo, conseiller communal au titre de la ville de Tillabéri, même si le niveau des eaux est à la date d'aujourd'hui stable, d'importants dégâts ont été déjà enregistrés dans les champs et périmètres risicoles de la commune. Il est joint au téléphone par Mokhtar Hamadou.
Heureusement que le niveau baisse, il monte, il baisse selon les pluies, surtout les pluies en amont qui viennent de vers Ayerou ou le Mali. Mais jusqu'à hier, en tout cas, le niveau est acceptable. J'étais même dans l'île de Foulée. Les habitants étaient aux aguets suite à la pluie d'avant-hier nuit et hier matin. Mais Dieu merci, la situation est stable. Très malheureusement, au niveau des périmètres et les champs traditionnels, là, tout est détruit. Maintenant, au niveau des aménagements hydro-agricoles, heureusement, c'est seulement celui de Toula, dont une partie est détruite par les pluies. À Toula, les habitants qui ont été victimes des inondations sont recasés dans les écoles du quartier.
Parlons éducation à présent. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fixé la date de la reprise des activités académiques à ce jour, lundi 7 septembre 2020. Selon le secrétaire général de l'Union des étudiants de l'Université d'Ottawa, les conditions ne sont pas réunies pour une rentrée effective. Issoufou Mahamadou Dibaley est au micro de Al-Mustapha Bakimbatouri.
Par rapport à la reprise académique, comme vous êtes en train de le constater, la reprise est en train d'être faite dans des situations difficiles. Si vous prenez l'exemple de la saison pluvieuse aujourd'hui, notre université, partout c'est de l'eau, jusqu'à devant les salles, l'accès est difficile. Il y a aussi la question du retour des camarades. Il y a des camarades qui sont en cours de route, il y a d'autres qui vont quitter le lundi. La reprise sera un peu difficile pour les 7. Nous avons fait un point de presse auquel nous avons énuméré des choses. La question de l'aménagement du terrain qui va permettre aux camarades de rentrer dans des salles. Il y a aussi les conditions hygiéniques et par rapport aussi au paludisme, parce que c'est des aspects que nous devrions voir avant même l'arrivée des étudiants. Donc nous ne sommes pas prêts.
L'insécurité dans le Kawor, la région d'Agadez, était au centre d'une rencontre la semaine dernière qui a regroupé le préfet, les chefs des cantons, les acteurs civils et les forces de défense et de sécurité du département de Bilma. Joint au téléphone par notre correspondant Moussa Maman, Lawel Taher, acteur de la société civile et participant à la dite rencontre, explique les mesures prises.
L'insécurité règne dans le département. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'enlèvements de véhicules au sud de Bilma et au nord du coup, donc vers Latay et aussi entre Madama et Daoutimou. On a vraiment essayé de voir dans quelle mesure on peut s'en sortir de cette situation. Nous avons dit, nous les acteurs de la société civile, clairement au préfet pour un peu changer, pour faire la sensibilisation autour de la population. Il n'y a pas beaucoup de matériel roulant comme des armes, des véhicules. Tout ça là, vraiment ça a manqué à la garde républicaine et à la gendarmerie. Nous avons demandé de remporter ça. Et autour des militaires aussi, on a demandé de faire des patrouilles si c'est possible. Vraiment, nous avons des avions américains qui sont en train de sillonner. Et vraiment, eux aussi, ils ont amené leur appui par rapport à la sécurité dans le département. Et nous avons demandé aussi à la population pour vraiment, s'il y a des cas comme ça, c'est ce qu'ils dénoncent.
Myriam Abdusalei représentera la région de Niamey au concours de Miss Niger 2020 prévu en novembre prochain. Élue Miss au titre de la région de Niamey parmi 92 candidates inscrites vendredi dernier, Myriam Abdusalei, âgée de 23 ans et diplômée en communication et multimédia, entend contribuer au changement dans son pays. Elle est au micro de notre reporter Michel Dégé.
Je compte représenter ma région avec tout mon courage et avec la fierté que je porte à ma région. Je me suis préparée physiquement et mentalement sur la démarche, la respiration, le sourire, le speech, sur l'entrepreneuriat féminin, qui est un sujet très important pour le développement de mon pays, le Niger. J'ai développé en général sur les femmes entrepreneurs qui prennent des initiatives pour changer leur pays et pour aider son peuple économiquement et culturellement, socialement. C'est un thème qui est à encourager parce qu'au Niger, beaucoup de femmes sont freinées dans ce système. Ce n'est pas la première fois que j'ai été nommée Miss. J'ai été nommée Miss plusieurs fois, à l'école et ailleurs, et à l'international aussi.
Alors ma chère, tu vas bien? Quelles sont les nouvelles?
Très bien ma copine, et toi ça va?
Ça va, alhamdoulaye. Tiens, pendant qu'on y est, je voulais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur.
Ah oui, je t'écoute, raconte alors.
Tu sais, hier, je quittais le marché dans les Fab Fab là. Donc j'ai écouté une conversation entre deux femmes. L'une expliquait à l'autre le rejet dont est victime sa fille infirmière, dans son quartier et même dans sa propre famille.
Non, tu es sérieuse là? Rejet à cause de quoi même?
C'est une infirmière. D'après les propos de la mère, la fille est rejetée de tous. Personne ne veut s'approcher d'elle. Tout le monde a peur d'elle depuis l'apparition de la COVID-19.
Mais attends, qu'est-ce qui explique ce comportement des gens?
C'est la peur due à la COVID-19. Du coup, les malades et ceux qui sont en contact avec eux sont rejetés, repoussés. Tout le monde a peur d'eux.
C'est vraiment dommage, ma chère.
Je te dis, toujours d'après sa mère, elle passe tout son temps à pleurer et refuse de manger et d'aller au boulot.
Mais là, il faut vraiment que les gens sachent que le social est très important face à cette maladie.
Voilà.
Nous avions besoin de nous soutenir les uns les autres. Le personnel soignant a besoin d'encouragement, les malades ont besoin de notre soutien et les autorités ont besoin de nos efforts, nos engagements à sensibiliser sur les gestes barrières à respecter contre cette maladie.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Le magazine de ce journal, selon la loi sur la cybercriminalité, tout adulte qui sollicite les faveurs sexuelles d'un mineur de moins de 15 ans, fille ou garçon, à travers les réseaux sociaux est passible de sanctions. Cette sanction sera double lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre et cela, quelle que soit la finalité de la rencontre, souligne la magistrate Gojemeymoun Gazibo.
Il y a des majeurs qui sollicitent les faveurs sexuelles des mineurs. Qu'est-ce qu'on entend par sollicitation des faveurs sexuelles des mineurs et en quoi consiste l'infraction?
C'est une infraction prévue et punie par l'article 20 de la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité. C'est le fait pour une personne majeure de solliciter les faveurs sexuelles d'un mineur, qui peut être fille ou garçon, de moins de 15 ans par l'usage d'un moyen de communication électronique.
Quels sont les supports électroniques concernés?
Sans être exhaustif, les supports les plus concernés sont Messenger, Facebook, WhatsApp, Yahoo Mail, Instagram, Twitter. Si vous utilisez ces réseaux sociaux pour démarcher les faveurs sexuelles d'un enfant de moins de 15 ans, qu'il soit fille ou garçon, vous allez être poursuivi sur la base de la loi sur la cybercriminalité.
Quelles sont les sanctions prévues en cas de poursuite?
Le majeur déclaré coupable de sollicitation sexuelle d'un mineur de moins de 15 ans est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA.
Quelles sont les circonstances aggravantes de l'infraction?
Lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre physique avec le mineur, les peines prévues sont portées au double. Tant que vous draguez l'enfant sur Messenger, sur WhatsApp, vous courez une peine de 3 ans de prison et une amende de 500 000 à 1 million. Si jamais vous donnez rendez-vous au mineur et que vous vous rencontrez physiquement, peu importe ce que donne le rendez-vous, si vous êtes pris, vous allez être condamné de 6 ans de prison et à une amende de 2 millions de francs. La loi sur la cybercriminalité n'interdit pas aux mineurs d'utiliser les réseaux sociaux, mais prend en charge la répression des adultes délinquants qui tentent de le détourner. Aucune disposition de la loi n'interdit aux mineurs de faire recours à WhatsApp, de faire recours à Facebook, de faire recours à Messenger. Par contre, vous, l'adulte délinquant, qui refusez de voir que c'est un enfant, si vous tentez de la draguer, vous tentez de porter préjudice à sa dignité, à son intégrité physique, vous allez être poursuivi.
Entretien réalisé par Balkissa Hamidou et c'est la fin de ce journal.